Bonjour à toutes et à tous, Didier Delatte sur IDFM pour un nouveau rendez-vous conte. Des histoires, des récits, des petits points de culture étonnants, ignorés, oubliés, qui nous viennent parfois de la nuit des temps et des hommes, et que je vous raconte en suivant un ordre alphabétique, un peu aléatoire, je l'avoue, au gré de l'actualité ou tout simplement de mes envies. Aujourd'hui, suite de l'aventure venue de la nuit des temps et des hommes que j'ai commencé à vous raconter la semaine dernière. Vous rappelez l'histoire de frère Jean, ce moine du XIIIe siècle, sanctionné par son évêque pour son insatiable curiosité qui avait exaspéré ses fidèles et vidé son église. En guise de punition, son évêque l'avait chargé de rapporter les reliques de Saint-Prix jusqu'au village de Thor, situé à une vingtaine de kilomètres de Pontoise. Des reliques qui feront prendre au village le nom qu'il porte toujours, celui de Saint-Prix. Une histoire que j'ai entièrement imaginée et rédigée, à partir de recherches minutieuses quand même. Alors même si la religion catholique y joue un rôle prépondérant, n'y voyez aucun prosélytisme. C'est juste l'envie d'écrire et de raconter une histoire. Souvenez-vous, nous avons laissé frère Jean en pleine forêt, en compagnie du loup qui l'a, par sa bonté et sa foi, converti à la religion catholique. Au printemps, frère Jean s'adressa solennellement à son loup qu'il avait baptisé Léonard.
« Cher compagnon, toi que j'ai libéré des chaînes de la sauvagerie, je te sais désormais capable de quitter avec moi la forêt et d'affronter la société des hommes sans te laisser aller à tes anciens instincts de carnivore. »
Léonard en fut profondément ému. Le prêtre sortit de la forêt par où il était entré 2 mois auparavant. Il conduisit alors son disciple sur les routes, traversant au grand jour villes et villages. Leur passage provoquait le plus vif émoi. Les paysans s'arrêtaient de faucher les blés, les enfants de traire les vaches. À Bouffémont, à Daumont comme à Montlignon, des attroupements se formaient autour d'eux. Sur les marchés, l'on ne discutait plus que de cette curieuse alliance de ce loup et de cet homme boiteux en soutane. Alors, si un gendarme s'avisait de leur demander une explication ou sommait le prêtre de décliner son identité, il se trouvait toujours un inconnu pour surgir de la foule et proclamer haut et fort qu'il s'agissait du frère Jean Massé et de son loup converti à la sainte religion. On s'agenouillait alors devant eux, et le gendarme confus se proposait humblement de leur ouvrir le chemin. Plus d'une fois, Jean félicita Léonard.
« Tu t'es révélé exemplaire durant toutes nos pérégrinations. À aucun moment tu n'as montré les crocs, ni grondé lorsque l'on se pressait pour nous entourer. Jamais tu n'as manifesté la moindre agressivité, ni envers les gendarmes, ni à l'encontre des chasseurs croisés au hasard des routes. » Parmi ces derniers, je sais pourtant que tu as reconnu plus d'une fois l'un de ceux qui avaient tenté de te débusquer et de te faire la peau autrefois dans la forêt.
Jean a tant marché que sa jambe droite le fait de plus en plus souffrir. Mais cela n'arrête en rien l'accomplissement de la mission que lui a confiée son évêque pour obtenir le pardon de sa trop grande curiosité.
Ah, mon évêque bien-aimé sera satisfait de moi. Quand j'aurai remis au Seigneur Jean de Tours les reliques de Saint-Prix, eh bien, il m'accordera sa miséricorde, j'en suis sûr. Je pourrai retrouver une église et des paroissiens. Oh, mais Léonard, je te promets de ne jamais les importuner par mes insatiables questions. Tu es témoin de ma promesse. Tu pourras me dévorer pour de bon si je ne la tiens pas.
Léonard frémit à cette pensée. Lui non plus ne trahira jamais la promesse qu'il s'est faite et qu'il a faite à Dieu. Plus jamais, il ne mangera d'humain. Précédé de sa glorieuse réputation, claudiquant plus que jamais, frère Jean fait donc son entrée dans le village de Thor, accompagné de Léonard en ce 25 janvier. Le Seigneur, Jean de Tours, éminent dignitaire et trésorier du temple, et dont la famille possède un important domaine sur la commune, Jean de Tours l'attend solennellement entouré de tous les notables, l'écuyer Pierre Choisiel en tête. Jean de Tours est revêtu de son menton blanc frappé de la croix rouge de chevalier de l'ordre des Templiers. Au fil des semaines, il a fini par manifester une exaspération croissante en raison du retard de la remise des reliques. Il faut dire que frère Jean a passé l'hiver avec son loup dans la forêt, occupé à le convertir et à l'instruire des saintes écritures. L'évêque, bien sûr, avait été informé de ce retard, et secrètement, il savourait sa petite victoire. L'Esprit Saint, n'est-ce pas, ne doit-il pas toujours avoir la préséance sur l'épée ? En ce jour de gloire, les autorités du village organisent pour frère Jean, leur nouveau guide spirituel, une réception digne mais sans excès, afin de ne pas irriter celui qui respecte scrupuleusement son vœu de pauvreté. Le soir, au cours d'une cérémonie sobre mais émouvante, frère Jean dépose la relique de Saint-Prix au prieuré noir. Le prieuré ainsi désigné en raison de la couleur de la robe de ses moines. Il se trouve à proximité immédiate de l'église et dépend de l'abbaye de Saint-Martin de Pontoise, donc de l'évêque. Il était parfois confondu par certains voyageurs avec le prieuré blanc, distant de quelques lieues, mais qui dépend, lui, de l'abbaye Saint-Victor de Paris. Plus connu d'ailleurs sous le nom de Sainte Radegonde. Celui-ci était situé près de la fontaine qui porte ce nom, non loin du château de la Chasse, dans la forêt de Montmorency. L'accueil honorable qu'on lui réserve n'empêche pas frère Jean de constater rapidement le peu de piété de ses nouvelles ouailles.
Tu vois, Léonard, l'église menace de s'effondrer, faute d'offrandes pour l'entretenir. Les enfants demeurent incultes et ignorants des vérités célestes. Personne ne se préoccupe en effet de leur instruction. Les paysans ne songent qu'à leurs arpents de terre et à leurs pieds de vigne. Le maire et les notables ne parlent que de pièces d'or et ne s'intéressent qu'à leur position dans la hiérarchie du canton. C'est lamentable.
Furieux de tant d'égoïsme et d'indifférence au message du ciel qu'il s'efforce de leur transmettre avec patience et compréhension, Jean se promet de remédier à cette lamentable situation. Mais il a retenu la sévère leçon que lui a administrée son évêque. Jetant aux orties son enthousiasme traditionnel, il décide d'employer la manière forte. Un soir, il se rend discrètement chez Pierre Choisiel, accompagné de Léonard. L'écuyer l'accueille cordialement, mais avec une inquiétude qu'il parvient mal à dissimuler. Ses craintes se trouvent d'ailleurs rapidement confirmées lorsque le prêtre lui dévoile l'objet de sa visite.
Choisiel, vous allez m'aider à reprendre en main les âmes dévoyées de Saint-Prix. Si l'on n'agit pas au plus vite, toutes iront rôtir en enfer, et celle de ta famille au grand complet mènera la procession.
Son hôte pâlit sous la menace et approuve vivement son visiteur. Celui-ci ne cache pas un sourire ironique.
Bien, mon fils, puisque tu acceptes de m'aider dans cette tâche difficile, je dois m'assurer que tu connais suffisamment toi-même ton catéchisme. Quel paysan ne rirait pas sous cap de te voir prêcher à mes côtés un enseignement dont tu serais toi-même ignorant.
N'ayez aucune crainte à ce sujet, répliqua vivement l'écuyer avec un ton faussement enjoué qui ne trompa nullement frère Jean.
Tu m'en vois fort satisfait, mais je dois m'en assurer en te posant quelques questions.
Les questions se mettent à rouler sur la tête du pauvre Choisiel. Parfois, il parvient à bredouiller quelques bribes de réponses qui n'étaient rien d'autre que de vagues souvenirs fort confus. Mais la plupart du temps, il s'avère totalement ignare. Son visage se décompose de plus en plus. Il passe par les couleurs les plus inquiétantes, depuis le blanc pâle de la mort jusqu'au jaune verdâtre. Au fur et à mesure, frère Jean manifeste un mépris croissant. Et, fait inattendu, Léonard grogne. Il grogne même de plus en plus. Il retrouve ses réflexes les plus anciens, ceux d'avant son baptême. Ses crocs luisent sous ses babines et dans ses yeux réapparaissent une cruauté de prédateur. En réalité, tout cela n'est que feinte destinée à terroriser le malheureux Choisiel. Celui-ci finit par se jeter à genoux et par implorer le pardon. Frère Jean se radoucit, expose ses conditions.
Choisiel, Léonard restera auprès de toi le temps qu'il faudra pour que tu connaisses ton catéchisme sur le bout des doigts. Pendant ce temps, tu seras privé de nourriture et ta fortune sera confisquée au profit des pauvres et des orphelins.
La méthode se révèle d'une parfaite efficacité. Moins d'une semaine suffit à Sire Choisiel pour en savoir autant, ou presque, que Frère Jean, ce qui d'ailleurs entre nous n'était pas si difficile que cela. Lorsqu'un matin Léonard réapparaît au presbytère, Jean fait porter au pénitent un bon repas préparé par sa servante, en même temps qu'une convocation immédiate. Au bout d'une heure, l'écuyer se présente. Amaigri et les traits tirés, il offre pourtant l'air d'un homme radieux ayant triomphé d'une épreuve difficile. Frère Jean lui pose 20 questions, auxquelles son élève sait répondre sans hésitation. Satisfait, le prêtre déclare
« Tu vois, Choisiel, tu es l'exemple vivant que le croc de Léonard accomplit parfois davantage de miracles que ma crosse. » C'est ainsi que nous procéderons désormais pour rendre enfin raisonnable manant et homme de bien de notre paroisse.
Le lendemain même, un novice du prieuré parcourut les ruelles du village, lisant à chaque carrefour la proclamation convoquant la population dans la grange des Rubelles, dont l'important domaine se trouvait un peu à l'écart du bourg. Un autre novice fut envoyé dans la campagne afin de porter l'ordre à chaque ferme. Bien avant l'heure prescrite, on vit converger vers la grange paysans, notables et négociants au grand complet. On ne laissa, à vrai dire, dans les chaumières ou les maisons de pierre, ni vieillard inconscient, ni nourrisson innocent. Lorsque l'Angélus sonna au clocher, Jean fit son apparition. Juché sur une estrade, il se montra d'une fermeté qu'on ne lui soupçonnait pas. D'un doigt menaçant et d'une voix caverneuse qui semblait ne plus être tout à fait la sienne, il s'écria
« Je parviendrai à éclairer votre cœur de paroissien coupable et condamnable jusqu'à ce que le remords et la terreur jaillissent dans chacune de vos âmes épaissies par l'égoïsme, l'ignorance et la cupidité. »
Les flammes de l'enfer se dressaient devant leurs yeux écarquillés. Plus d'un affirma par la suite avoir vu le diable en personne, oui, le diable en personne, tenir par le cou tel ou tel de ses voisins encore plus coupables que lui-même. Il fut assuré de son effet, le prêtre s'emporta de nouveau.
Je le jure ici, pas un seul d'entre vous n'ira plus grossir les rangs des pécheurs qui brûlent pour l'éternité dans les chaudrons du malin. Nul ne repartira de cette grange avant de savoir ce que tout chrétien doit connaître et respecter. Sire Choisel et mon fidèle Léonard vous y aideront.
Sur ces paroles sans appel, le prêtre disparut aux yeux de l'assistance dans un nuage de fumée. Cette évaporation frappa fort les esprits et décupla la stupéfaction générale. Moralité, il n'y avait rien de surnaturel dans ce phénomène. Sur l'ordre de Jean, Pierre Choisel avait simplement enflammé une cartouche de poudre blanche et l'avait déposée derrière l'estrade. un mois durant, du matin jusqu'au soir, l'écuyer usa ses forces à inculquer le catéchisme à ses administrés qui, d'un cœur unanime, répétaient ces paroles. Il faut dire que toute fausse note faisait dresser l'oreille de Léonard. Le loup bondissait alors sur ses pattes, le poil hérissé, les crocs luisants, cherchant à débusquer le coupable. Alors, chacun guettait les défaillances de son voisin pour le pousser du coude et le morigéner. Mais beaucoup imploraient secrètement Saint-Prix de les débarrasser de leur tourmenteur. Quelque temps plus tard, l'évêque de Pontoise s'informa de la situation de ce village lointain où l'on avait nommé son fameux prêtre au loup.
« M'inventer la méthode mise au point par frère Jean. Très efficace, paraît-il, pour s'assurer que ses paroissiens retiendront leur catéchisme. Mais cet écuyer, Choisiel, un allié tout aussi redoutable, semble-t-il, tout aussi redoutable que son célèbre converti aux puissantes mâchoires, le loup, baptisé Léonard. Décidément, il faut que je me rende compte par moi-même de l'étrange atmosphère qui semble régner dans cette paroisse. »
Un dimanche, aux alentours du 10 juillet, déguisé en mendiant, l'évêque se rendit dans le village. Le village qui ne portait pas encore le nom de son cher Saint-Prix. Une heure avant la messe, il trouva l'ensemble des paysans, femmes et enfants compris, réunis dans l'église. Assis sur une estrade, un peu en retrait du prêtre, Choisiel dominait l'assemblée de sa solide carcasse de quinquagénaire, fier de ses biens et de sa réputation. L'évêque comprit que ce n'était pas sans raison que, sur la demande de Jean, l'écuyer siégeait à ses côtés. Ce jour-là, deux paroissiens se trouvaient en situation d'accusé. Le premier, pour avoir commis une mauvaise action. Le second, pour avoir tenu quelques propos irrespectueux envers Dieu et son Église. J'entendis vers eux un doigt vengeur, d'une voix tonitruante que l'on disait décuplée par le souffle du ciel. Il se mit à raconter une parabole biblique si effrayante que les deux pêcheurs sentaient déjà les flammes de l'enfer leur brûler la plante des pieds. Cependant, ce début de châtiment n'était que douceur à côté des frissons glacés que faisait naître chez les malheureux le regard de Sire Choisiel. Celui-ci fronçait ses sourcils, aussi épais que le taillis de ces bois où nichaient les plus gros sangliers de la forêt de Montmorency. Choisiel vrillait sur ses proies ses yeux dont les pupilles se dilataient jusqu'à ressembler à deux billes de plomb. Les coupables tentaient de se dissimuler au milieu de la foule. En vain, ils se sentaient crucifiés. Crucifiés comme ces pauvres chouettes hulottes que les jeteurs de sorts avaient coutume de clouer aux portes des remises. Le prêtre annonça ensuite:
« Je vais personnellement procéder aux interrogations portant sur le catéchisme. »
Le silence se fit pesant dans l'assistance. Oh, on avait pourtant révisé en famille, mais chacun craignait une défaillance au cas où le curé le questionnerait. Cependant, ce fut vers le mendiant inconnu que le franciscain pointa son doigt inquisiteur. L'évêque travesti ne manifesta aucune inquiétude et pour cause. Il répondit tranquillement aux 9 premières questions. Sans oser se l'avouer, frère Jean ressentait un vif dépit devant la calme assurance et le sourire ironique de ce pauvre air si savant. Tout à coup, son visage s'illumina.
« Oh, je te félicite, brave homme, je ne te pensais pas aussi bon chrétien. »
L'évêque doucement rétorqua.
« Vois-tu, l'habit ne fait pas le moine. »
Jean se rendit compte que l'étrange pèlerin se jouait de lui. Il s'apprêtait à recourir au regard menaçant de Choisiel lorsque la voix du visiteur fit trembler les voûtes.
« Ne vois-tu pas, misérable, le péché dans lequel tu as plongé tes paroissiens ? Crois-tu que la tyrannie soit le moyen d'amener tes frères vers Dieu ?»
Après quelques secondes d'un silence digne du tombeau, la voix céleste de l'évêque reprit avec colère.
« Je ne vois ici que des paysans terrorisés, marmonnant des paroles apprises par cœur, mais sans aucune conviction. »
Un murmure d'approbation accompagna ce sermon inespéré. Le faux mendiant, l'évêque, tonna un peu plus.
« Seul l'amour du Seigneur fait de bons chrétiens, vois-tu. Je suis venu à temps pour t'éviter d'être à jamais interdit de royaume éternel. »
« Interdit du royaume éternel ?»
Jean cacha son visage entre ses mains.
« Oui, ce royaume céleste d'où ton impiété m'a contraint de descendre. Moi dont tu devrais être le fidèle serviteur. »
« Saint-Prix, Saint-Prix, ne m'abandonne pas !»
Jean se jeta à terre devant l'évêque travesti qui, d'un noble geste, s'était débarrassé de ses hardes de mendiant et arborait la tenue somptueuse des pères de l'Église.
« Saint-Prix, Saint-Prix, ne m'abandonne pas !»
La stupéfaction s'empara de la foule qui s'agenouilla et se signa plusieurs fois. L'évêque expliqua.
« Je suis venu délivrer tes ouailles. Sans toi, ils deviendront de bons croyants, sans crainte ni défaillance. »
Jean écarquilla les yeux.
« Sans moi ?»«
Sans toi. Suis-moi. »
Le ton de l'évêque n'admettait aucune réplique. Alors, dans le plus parfait silence, l'évêque sortit majestueusement de la grange, bénissant ceux qui avaient la chance de pouvoir embrasser sa tunique. Tête basse, Jean le suivait, en larmes. Cependant, le ciel tint à manifester sa miséricorde à son serviteur trop zélé. Jean se redressa soudain et se mit à crier.
« Je n'ai plus mal à la jambe, je n'ai plus mal à la jambe, c'est un miracle. Merci Saint-Prix, merci Saint-Prix. »
Ce furent d'ailleurs ses dernières paroles. L'évêque, long, n'écoutait sans doute dans les cieux, eut un petit sourire.
« Alors, je n'ai pas prié pour rien. »
Quand ils eurent disparu, un tonnerre d'applaudissements retentit. Les fidèles se mirent à acclamer longuement leur saint. Et pour célébrer cette libération, unanimement considérée comme un miracle, chacun s'appliqua à devenir un bon chrétien. De bruit se répandit rapidement que Saint-Prix guérissait les maux des jambes. Ce fut alors le début des innombrables pèlerinages qui, plusieurs siècles durant, virent affluer au mois de juillet des cohortes de malheureux claudiquants. Le jour de la fête du Saint, le village était envahi de charrettes. Les dévots logeaient pour la plupart dans les auberges qui bordaient Rubel, de la capitale, et d'ailleurs affluait une foule si importante que l'église ne pouvait l'accueillir entièrement. Les miracles attribués à Saint-Prix attiraient également, tout au long de l'année, des personnes impotentes, éclairées par la plus ardente des dévotions. Monsieur de Saint-Prix, guérissant tous les estropiés, on y déposait autour de l'autel du Saint quantité de mains, de jambes et de pieds de cire, témoignage de guérison accomplie ou espérée. On aidait les boiteux, les cul-de-jatte et même les paralytiques à courir autour du tombeau en criant trois fois « Miracle ! Miracle ! Miracle !» Ceux à qui ce remède semblait insuffisant préféraient se rendre à une fontaine sous le toit d'un ancien lavoir. À trois reprises, les malades y étaient trempés jusqu'au cou. Ils invoquaient Saint-Prix, les yeux fixés sur une vieille statue enfoncée dans une niche sombre. Les malheureux tentaient ensuite de se réchauffer dans le lit d'une auberge. La présence à la messe de minuit accentuait les chances de guérison. On assistait alors à un spectacle étonnant. des forts de la halle de Paris, réquisitionnés pour l'occasion, portaient les malades allongés sur des brancards. Au moment de l'élévation, tous se mettaient à crier « Miracle, miracle, bienheureux Saint-Prix, envoyez-nous santé et guérison !» Les sept chapelles qui entouraient l'église devenaient autant de stations où l'on poussait les mêmes invocations. Certains étaient pris de convulsions, accompagnés de vociférations. Quand ils avaient recouvré leur conscience, eh bien, le miracle était accompli. En l'an 1540 se déroula un événement fort mémorable. Le bon roi François Ier séjourna quelques jours au château de Le Mont, situé dans la commune voisine de Saint-Leu. Il venait prier Saint-Prix pour obtenir la guérison du dauphin. La ferveur populaire atteint un degré tel au XVIe siècle que le village abandonna le nom de Thor pour celui de Saint-Prix. Saint-Prix qu'il porte encore de nos jours. Mais, au siècle suivant, la Révolution porta un préjudice sévère au pèlerinage. Une amende de 20 francs, une peine d'emprisonnement, frappèrent ceux qui promenaient abusivement et dans l'excès des malades. Le 29 octobre 1792, en pleine déchristianisation, la relique de Saint-Prix disparut. En réalité, elle avait été mise en sûreté par Jean Gilbert, le maître d'école. Et il fallut attendre l'an 12 de la République pour qu'on la sorte enfin de sa cachette. Cependant, malgré sa réapparition, le pèlerinage ne retrouvera jamais son antique ferveur. Je vais vous raconter, à vous seulement, une curieuse aventure à propos de Saint-Prix, ou plutôt à propos de frère Jean Massé. Voilà. Un jour, je me promenais près de la source Sainte-Radegonde, vous savez, dans la forêt de Montmorency, juste aux alentours du château de la Chasse. Eh bien, j'ai entendu cette étrange conversation. Ou plutôt, cette voix qui s'adressait à un dénommé Léonard.
Tu vois, mon cher Léonard, on nous a totalement oubliés avec les siècles. Pourtant, notre aventure a été une belle aventure. Moi, le moine trop bavard puni par son évêque, toi, le loup féroce que j'ai délivré de tes instincts meurtriers grâce à notre sainte religion. Pourtant, comme on nous respectait sur les routes et dans les villages quand je portais les reliques de Saint-Prix sur mon dos. Et puis, c'est quand même grâce à nous que notre saint vénéré a trouvé son ultime repos dans le village qui a pris son nom. Et ce pèlerinage ?
Soudain, une voix plus forte sembla lui répondre.
Ah, ne recommence pas, Jean, et sois modeste. C'est à moi, l'évêque, qu'en revient toute la gloire. C'est moi qui ai tout pensé, tout prévu.
Monseigneur l'évêque, vous n'êtes vraiment pas de bonne foi. Si Léonard et moi...
Voilà, ainsi s'achèvent nos deux rendez-vous contes consacrés à l'histoire de Jean de Saint-Prix, une histoire venue de la nuit des temps, même si je l'ai en grande partie inventée, mais une histoire qui m'a permis de vous expliquer pourquoi la petite commune de Thor a pris le nom de Saint-Prix. Ce nom que porte toujours cette ville de quelques milliers d'habitants qui se trouve à une dizaine de kilomètres de nos studios. Rendez-vous compte, une émission conçue, réalisée et présentée par Didier Delard sur IDFM. À la semaine prochaine, même heure, même adresse. En attendant, voici Sur le terrain, l'émission qui laisse la parole aux Valoisiens et qui présente tous les événements de notre département sur IDFM Radio, évidemment.